Et au verset 9e, nous nous trouvons dans un temps particulier, puisque vous le savez, Jésus va donner sa vie à la croix du calvaire, mais il va avoir ce temps de communion avec ses disciples, et il va partager avec eux le pain, le vin, et il va y avoir ce dernier discours, ce dernier enseignement que le Seigneur va faire auprès des siens, après qu'il leur eut lavé les pieds. Vous connaissez aussi tous ces textes, il mit son amour à son comble pour ses disciples, et il leur enseigne notamment sur la venue d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité, voilà. Et puis il parle comme il n'a jamais parlé à ses disciples. Et voici ce qui nous est dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses. » Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Gloire au Seigneur. On sent dans ces textes que nous lisons qu'ils sont chargés d'émotions. Et on atteint un niveau d'intimité entre Jésus et ses disciples qui n'a jamais été atteint. Voyez, c'est même à ce moment-là où il nous est décrit que l'apôtre Jean aura une attitude particulière, la tête près de la poitrine du Seigneur. Et il y a là tout un message à l'égard de notre intimité avec le Seigneur. Et il y a un mot que je voudrais retenir avec vous, un mot sur lequel nous allons méditer ce matin. C'est le mot « ami ». Vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, à trois reprises, il nous est dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Voyez, il nous est même dit ceci « vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Et il nous est dit « mais je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ». Ami, c'est un terme qu'on emploie, je sais pas si on emploie encore beaucoup ce terme. Voilà, c'est mon copain, un ami, etc. C'est un terme un peu galvaudé. On peut avoir des amis sur Facebook. Vous voyez, j'ai plein d'amis sur Facebook, mais est-ce que ça correspond à une certaine réalité ? Mais dans la Bible, et on va le voir, avant d'entrer même dans le cœur du sujet, on va voir que dans la Bible, ce mot, le titre d'ami, la position d'ami, elle est extrêmement importante. C'est un ami, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, c'est celui à qui l'on se confie, c'est celui de qui on est proche, avec qui on le partage. Et puis, c'est un terme, je ne sais pas ce que vous en pensez en préparant ces moments, je me suis dit, mais c'est un terme qui échappe un petit peu à des éléments de doctrine. Vous voyez ? Je crois que notre foi elle a besoin d'être appuyée sur des éléments de doctrine clairs. Notre rédemption, voilà. Le sang, nous avons été rachetés par le sang de Jésus de nos péchés. Alléluia. Tout a été payé. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes adoptés. L'adoption, l'élection, etc. Mais l'amitié, c'est quand même quelque chose d'informel un petit peu. Un ami. On l'appelle un petit peu quand on veut, il n'y a pas vraiment de code. C'est relationnel. Et Jésus parle de cela, il dit « vous êtes mes amis ». Il dit qu'il va donner sa vie pour ses amis. Et il nous entraîne dans un niveau d'intimité, de relation, de franchise, d'échange, de cœur à cœur que, il me semble, nous avons besoin peut-être eh bien de reconsidérer, peut-être pour quelqu'un, de retrouver, de réévaluer et de dire « Seigneur, je suis un ami de Jésus-Christ. Je suis un ami de Jésus-Christ. » Avant d'entrer, j'allais dire, vraiment dans le débat du sujet, dans la méditation, je vais vous donner quelques références bibliques concernant l'amitié dans la Bible. Elle se trouve notamment dans l'Ancien Testament, et le mot hébreu pour ami renvoie à un autre mot qui prend sa racine donc dans le fait d'être un berger. Et donc dans l'Ancien Testament, celui qui est un ami, c'est celui qui est comme un berger pour son prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin de lui, quelqu'un qui va l'amener dans de verts pâturages, vous connaissez tout cela, voyez, comme un berger. Et maintenant, je vais vous citer quelques références. Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. C'est peut-être le verset le plus extraordinaire dans la relation de Dieu avec David, de Dieu avec Moïse, pardon. On voit que le rôle de l'ami est très, très décrit, notamment dans le livre des Proverbes. Alors, le classique des classiques, Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime, connaissez, aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère, alléluia. » Et on chante ce chant, « Le véritable ami aime en tout temps, alléluia. » Le véritable ami, c'est Jésus, alléluia, l'ami aime en tout temps. Proverbe 12, 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. » L'Écriture même nous invite à avoir du discernement dans le choix de ses amis. Proverbe 18, 24, je vous donne ça pêle-mêle. « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » C'est-à-dire qu'il faut faire le choix entre ses amis. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que ce sont tes amis. Il suffit d'avoir un ami, un bon ami. Et il peut être plus attaché, plus intime, plus près de toi que même un frère dans la chair. Je continue en disant que dans le livre de Job, il est parlé d'amitié. Et Job a eu des amis. Je cite Job 12, 4. « Je suis pour mes amis un objet de raillerie. » Il dira, là, ce n'est pas des bons amis. Job n'a pas eu de bons amis. Et il dira, et je trouve aussi ce texte, je vous donne toutes ces considérations afin qu'au travers de ces références bibliques, la notion d'être un ami dans la Bible pénètre nos cœurs, voilà, notre esprit. Et il nous est dit, dans Job au chapitre 6 et verset 14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » C'est fort, ça, hein ? Je le répète, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Dans cette assemblée, j'ai eu le témoignage de ce qui s'est passé concernant une sœur qui a, suite à une faute de jeunesse, eh bien, a passé près de 30 ou 40 ans de sa vie, eh bien, sans venir à l'église. Elle gardait le Seigneur dans son cœur, mais elle n'osait plus revenir, remettre un pied dans une église. Mais une amie de jeunesse chrétienne avec laquelle elle témoignait de Jésus, elle servait le Seigneur dans l'église locale, eh bien, elle n'a jamais cessé de prendre de ses nouvelles tous les mois en s'appelant, en allant se voir. Et des années plus tard, eh bien, alors que certaines choses eh bien, s'étaient passées dans sa famille, bien, elle lui dit, et si tu revenais à l'église maintenant ? Et je voudrais vous dire, je ne veux pas citer de nom, mais elle est au milieu de nous. Alléluia ! Alors on rend grâce au Seigneur. Tout cela parce qu'il y a eu le témoignage d'une amitié. Alléluia ! Je répète ce texte 6,14 de Job. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Proverbe 26, verset 6. Il est beau, 6 versets. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. T'es plus mon ami parce que tu as dit des choses qui m'ont blessé. Ouais, mais des fois, un ami, il peut dire des choses qui sont blessantes parce qu'il veut te dire la vérité. Lui, je l'aime bien. Il est toujours d'accord avec moi. Ouais, mais peut-être qu'il est très, très intéressé dans sa relation avec toi. Vous voyez ? Et l'Écriture nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il prouve qu'il t'aime vraiment parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Alléluia. Et nous voulons eh bien, rendre grâce au Seigneur parce que Jésus, c'est le véritable ami. Alors, je voudrais qu'on puisse s'intéresser à cette notion d'amitié, d'ami. Je vous ai appelé ami. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quelle direction le Seigneur veut-il eh bien, nous entraîner dans ces moments ? Et vous avez remarqué qu'il y a vraiment, dans le Nouveau Testament, qu'ici, où on va le voir ailleurs aussi, quelques deux, trois exemples, mais où cette notion d'amitié est donnée, mais quand même, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte. Je vous ai appelé ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on va voir que Jésus, c'est le véritable ami. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un ami qui aime. Un ami eh bien, qui croit dans son ami, qui croit, voilà, qui place sa confiance, et un ami eh bien, qui reste le même, qui est fidèle et qui sert. Le véritable ami, bien sûr, eh bien, nous le savons, c'est Jésus. Et l'Écriture nous dit, notamment dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 29, eh bien que Jésus a été appelé l'ami des pécheurs, l'ami des pécheurs et des gens de l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. L'ami, il est caractérisé par un caractère voilà, particulier, il cherche à faire le bien en réalité. Un ami cherche à faire du bien dans une relation de proximité avec celui qu'il aime. Et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé pour nous. Mes frères. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement. On sait l'identifier. Et si vous constatez le ministère de Jésus qui allait de lieu en lieu, il était accessible. Nous voyons le Seigneur entrer dans le foyer des gens, voyons le Seigneur répondre eh bien, à des invitations, nous voyons le Seigneur Jésus se mêler à la vie intérieure eh bien, de certains foyers. L'Écriture nous parle par exemple eh bien, que de Marthe et Marie avec Lazare, etc., ce lien qui les unissait. Et nous voyons qu'il y a quelque chose qui correspond également à notre expérience avec le Seigneur. Je ne sais pas comment les choses se sont passées avec vous. Mais un jour, on vous a parlé de Jésus, c'était peut-être, excusez-moi, dans une chambre, c'était peut-être eh bien, dans votre salon, dans votre cuisine, ou peut-être dans un lieu tel que celle-ci, mais vous vous êtes senti tout simplement, eh bien, subitement, tout près de Jésus. Comme si le Seigneur était dans cette salle ou au travers de la voix du prédicateur, dire « mais il est en train de me parler ». Et certains d'entre nous, nous avons fait des expériences en disant « mais je ne comprends pas le pasteur, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas ce prédicateur, mais lui il me connaît, il parle comme s'il connaissait toutes les affaires cachées de ma vie ». En réalité le pasteur, le prédicateur ou l'évangéliste ne vous connaît pas du tout, mais le Saint-Esprit lui vous connaît, alléluia, il dit « je te connais, je ne te condamne pas ». Et au travers de cette relation de proximité, vous êtes en train de découvrir quoi ? Eh bien l'amour du Seigneur, il est réel, le Fils de Dieu, et il est celui qui me veut du bien, il est celui qui me connaît. Et vous savez que, bien sûr, lorsque on a dit de Jésus c'est l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie, c'était pour lui créer une mauvaise réputation, sous-entendu pour lui dire il encourage les gens dans leur péché, il encourage les gens à mal faire. Mais vous savez que la volonté du Seigneur, c'est pas du tout ça. Et s'il est entré dans une relation de proximité avec des hommes et des femmes de mauvaise vie, c'était au travers de sa présence, il leur a accordé sa présence, la présence du Fils de Dieu, pour leur faire réaliser que malgré leur péché, ils avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia ! Et qu'il voulait les détourner de leur péché. Et effectivement, l'ami, le véritable ami, aime en tout temps. Alléluia ! Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un dans cette matinée, le Seigneur t'aime. Et il te parle ce matin, un cœur à cœur, te dire, je t'aime pas de loin, je t'aime de près, je te connais. Je connais même, excusez-moi, les dossiers qui font mal, ce qui sent pas bon. Mais au travers de cette relation, tu es en train de découvrir eh bien, celui qui t'aime d'un amour éternel. Le mot en grec, philos, parle de l'amitié, donc de cette dimension relationnelle eh bien, qu'on a avec un ami. Et il est associé à l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu qui va jusqu'au sacrifice suprême, celui de sa propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je voudrais te dire, celui qui se révèle à ton cœur, celui qui peut-être dans cette matinée, eh bien, se renouvelle à ton cœur, dans ta pensée, par le Saint-Esprit, veut te dire ceci, moi je t'aime d'un amour éternel, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te laisser, mais au contraire, eh bien, je veux te relever, alléluia, et il est le véritable ami. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Et cette dimension, eh bien, j'allais dire, oui, relationnelle, eh bien, c'est cet amour, eh bien, qui a touché les pécheurs de tous les âges. L'Écriture nous parle, par exemple, de l'apôtre Paul, de son témoignage, lorsqu'il dira, moi, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, vous connaissez, mais j'ai obtenu miséricorde. Et il dira même, dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Amen. Alléluia. Et nous aussi, nous pouvons rendre témoignage à cela. C'est cet amour qui nous a atteints. Et je l'ai dit tout à l'heure. Cet amour qui ne craint pas d'entrer dans le secret de ta vie. En tant que pasteur, serviteur de Dieu, j'ai vu des choses extraordinaires où dans une cuisine, on a prié le Seigneur et Jésus est intervenu. On est entré dans des situations difficiles, excusez-moi, de galère, dans des soins intensifs, dans des vies touchées par le cancer, par toutes sortes de situations compliquées. Jésus a été là, alléluia, le véritable ami qui aime en tout temps, celui qui est dans le contact, celui qui est dans la proximité. Et je voudrais dire ce matin, eh bien ce Seigneur, eh bien, n'a vraiment pas changé, il est toujours le même et il veut manifester son amour. Et c'est cela le véritable ami. C'est celui qui est le créateur du ciel, de la terre, qui aime d'un amour infini, qui nous rachète et qui est mis à notre portée et à notre dimension. Alléluia. Amen. Et ce matin, que tu puisses dire, Seigneur, combien je suis heureux de te connaître. Alléluia. Sans cet amour, sans cette amitié profonde, eh bien que tu me portes, je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Mais c'est glorieux. Je suis un intime de Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai réécouté ce chant merveilleux que j'aime bien. J'aurais aimé le chanter, mais connaissant mon sens du rythme, je vous ai fait grâce. Voilà, je me suis dit, les pauvres, il ne faut pas les faire souffrir quand même. C'est ce chant, François, peut-être, David, voilà, je le mets sur votre cœur. Hein. Je suis ami de Dieu, vous connaissez, hein. Voilà, hein. Quelle grâce, hein. Est-il vrai que quand tu penses tellement à moi, hein, c'est merveilleux ça, alléluia. Le Fils de Dieu pense à moi, je suis son ami, alléluia. Gloire à Dieu. Et cette amitié, eh bien, elle se révèle dans le sens que, eh bien, le Seigneur nous aime quelles que soient les situations. Ça, c'est... Et je crois que avec l'ancienneté, avec les années, on arrive à cartographier son caractère. Tony, c'est pas vrai ? À connaître qui l'on est. On avait peut-être des illusions sur ses propres compétences, sa propre personne. Et on s'aperçoit que le Seigneur nous aimait quand même, malgré tout ça. Et on s'est dit, Seigneur, maintenant qu'il y a parfois certaines illusions qui sont tombées, tu m'aimes toujours, Seigneur ? Tu sais, il y a un homme qui était comme ça. Moi, j'aime bien l'apôtre Pierre. Je ne sais pas ce que vous en... Vous aimez l'apôtre Pierre ? Moi, j'aime bien l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul, j'aime beaucoup. Bien sûr, on les... Voilà. Mais l'apôtre Paul, on a l'impression que le niveau, il est haut quand même. Hein, Patricia, non ? High level, hein, voilà. Et Pierre, quand tout cela t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Hein ? Vous ne l'avez pas dit, vous, à Jésus ? Vous ne lui avez pas dit, oh, Seigneur ? Dire, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. C'est vrai ? Et puis, on s'est retrouvés, comme Pierre, dans des situations à prendre un peu nos distances, parce que c'est devenu un peu trop dur. Peut-être au bureau, peut-être à la fac, ne plus oser dire franchement qu'on est un ami de Jésus-Christ, qu'on le connaît. Mais toi aussi, tu fais partie de ces chrétiens-là. Ouais, je les connais un peu. Pourtant, tu es passé par les eaux du baptême. Et l'apôtre Pierre, eh bien, vous connaissez tout cela, a fait ces mêmes expériences, reniant son maître à 3 reprises. Et là où je veux en venir, eh bien, c'est que le Seigneur va restaurer l'apôtre Pierre. Malgré le fait de sa chute, le véritable ami, il aime en tout temps. Oui ou non ? Il a rétabli l'apôtre Pierre. Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci ? Je ne vais pas faire toute la lecture qui se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 21 et au verset 15. M'aimes-tu ? Mais à chaque fois, le Seigneur emploie ce mot agapao, voilà, d'un amour parfait qui se donne. Et Pierre reste sur le mot philéo, qui est justement là pour décrire une amitié, une relation. Et à la fin, Jésus dira, mais est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu es prêt à rétablir avec moi cette relation ? Et on s'aperçoit, oui, tu sais que je t'aime. Et on s'aperçoit que ce dont Pierre avait vraiment besoin, c'était de retrouver cette relation qu'il avait perdue, quel que soit, Seigneur, ce à quoi tu m'appelles, quoi que tu aies prévu pour ma vie. Mais ce qui est le plus important, c'est que plus jamais je sois séparé de toi. Il a certainement connu des heures amères, cruelles, des conséquences de son péché, des conséquences de sa propre lâcheté. L'Écriture nous dit qu'il pleura amèrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte dans l'Évangile selon Luc, où tandis qu'il renie le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus se retourna et regarda Pierre. À chaque fois que je le lis, ce texte, c'est comme si j'étais transpercé dans mon cœur. C'est comme si Jésus me regardait. Seigneur, et mon Dieu, mais je suis ton ami. Alléluia. Et il est venu pour chercher Pierre. Et nous voyons dans la suite, Pierre va changer. Bien sûr, il sera rempli du Saint-Esprit. Mais il va insister dans sa vie sur une seule chose. C'est l'état de ma relation avec Dieu. Quelles que soient les situations que je traverse, ce qui est prédominant dans ma vie, c'est, Seigneur, ma relation avec toi. Et il sera là dans la chambre haute. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera là pour évangéliser. Et dans Acte 4, on ne va pas rentrer encore dans les détails des versets, mais vous vous souvenez, il comparait devant le Sanhédrin parce qu'il a parlé de Jésus avec Jean, et il y a eu un miracle, un boiteux de naissance est guéri miraculeusement à la porte belle du temple. Vous vous souvenez cela ? C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Je n'ignore ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous vous souvenez de ce texte, hein ? Voilà. Et le boiteux, et on les jette en prison, on les fait comparaître, et il nous est dit, c'est là où Pierre dira, mais il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et le Sanhédrin constate une chose, ils étaient surpris parce qu'ils voyaient des hommes sans éducation, des hommes du peuple, mais ils étaient surpris de leur assurance, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Non seulement pour avoir été avec Jésus dans le passé, mais Pierre était toujours avec Jésus au temps présent, alléluia! Parce que Jésus vit en lui, ce que j'ai, je te le donne. Jésus est en moi. Et lorsqu'il y aura cette épreuve de traversée et qu'il rejoindra les siens, le premier réflexe qu'ils vont avoir tous ensemble, c'est de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, mon Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous, ce qu'on veut, c'est continuer de témoigner de toi. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de marcher avec toi. Alléluia. Amen. Je veux continuer à être l'ami de Jésus-Christ. Amen. Même si tout le monde s'y oppose. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est, imaginez que dans le ciel, François, il y a des François là, hein, Jésus dise, lui, c'est mon ami. Peut-être qu'il y a des larmes qui vont pleurer, qui vont couler. Hein. Seigneur, tu m'appelles ton ami, je ne le mérite pas. Mais je t'aime, tu es mon ami. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai payé pour que tu sois avec moi pour l'éternité dans le ciel de gloire. Alléluia. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je prie afin que mes frères et sœurs, cet amour que le Seigneur a porté envers un homme comme l'apôtre Pierre et envers chacun de ses disciples, ce soit également l'amour qui nous unisse. Parce que quand on fait partie de l'Église, on devient des frères et sœurs. Et il est impossible, au bout d'un certain temps, de ne pas être intimes les uns avec les autres. Oui ou non ? vous me connaissez, vous connaissez le nom de mes enfants, vous connaissez le nom de mon épouse, vous connaissez l'adresse où j'habite même. Mais moi aussi, je vous connais. Ouais, hein, Oné, je te connais. Ouais, bien sûr, Ronald, on se connaît. Hein, voilà, on mange ensemble, on prie ensemble, on est malade, voilà, on prie les uns pour les autres, etc. On se connaît. Et c'est ça la force de l'Église, on n'est pas des étrangers. Petite parenthèse, attention à ce que ce temps de vacances ne laisse personne sur le carreau. C'est-à-dire que pendant 2 mois, personne ne reçoive aucun coup de téléphone. Merci Stéphane. On se connaît avec Stéphane, hein. On est amis un peu. Hein. Voilà. Mais tout ça, c'est un ami d'Alexandre, vous vous souvenez Alexandre ? Voilà. Donc, veillons à ce que personne qu'on oublie personne, mais au contraire qu'on se porte des faveurs, des soins, des nouvelles, et aussi de comprendre que malgré le fait qu'on puisse se connaître dans certaines situations particulières, c'est pas forcé, c'est pas contraint, mais la vie fait que on arrive à connaître certaines choses. Mais on n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour s'observer. On n'est pas là pour s'espionner. Mais on est là pour être des frères et des sœurs qui se soutiennent, le véritable ami qui aime en tout temps. Alléluia ! Amen ! Et dans une certaine discrétion, bien entendu. Alors je voudrais avancer en disant que l'ami, c'est celui qui s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. C'est mon troisième point. Un ami qui croit dans l'amitié. À quoi je pense lorsque je me réfère à ça ? Je me réfère à ce texte. Tout à l'heure, j'ai chanté, je vous ai donné les paroles de ce chant, « Je suis ami de Dieu ». Et il me semble que l'inspiration de ce chant se trouve dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, où il nous est parlé d'Abraham, au chapitre 2 et au verset 25, ou 23, où il nous est dit, « ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Le contexte, c'est lequel ? Le contexte, c'est que Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Dieu va le bénir dans un pays qu'il ne connaît pas. Il y va par la foi. Il se retrouve à Canaan. Et là, il lui dit, je vais te donner une postérité. Le problème, c'est que, vous le savez, Sarah, son épouse, elle est stérile. Et puis, plus le temps passe, plus les années passent, moins il y a de chance pour que les deux puissent avoir un enfant. Mais l'Écriture nous dit qu'il crut, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. C'est-à-dire qu'un ami s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. Souvenez de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que tu crois que Dieu va vraiment te bénir ? Parfois, je m'aperçois que même parmi les jeunes au milieu de nous qui sont face à des situations où leur vie doit se construire, où il y a des perspectives d'avenir, mais un monde tellement dur et il faut prier pour les jeunes afin que le Seigneur les bénisse. Vous savez, je crois que quand on a 20 ans, c'est un bel âge, mais je crois que c'est un âge où il y a énormément de combats. Énormément de combats. Quand on passe, j'ai l'impression qu'on s'accroche, qu'on passe cette période-là, la vie s'installe un petit peu plus, y a des combats, bien sûr, mais là, tout est à construire. On se dit, mais Seigneur, mais comment je vais y arriver ? Comment je vais faire, Seigneur ? Comment c'est possible ? Et puis, un pépin de santé, une situation qui ne marche pas, une erreur de jeunesse qui rattrape le présent et le Seigneur, et tu entends cette voix, mais Dieu a-t-il réellement dit ? L'affront, il était fait quand même au Seigneur par Satan dans le jardin d'Éden. Mais écoute, mais Dieu, il ne va pas tenir parole. Est-ce que tu crois vraiment que dans ses promesses ? Et là, la Bible nous parle d'Abraham, qui lui, est appelé l'ami de Dieu. La Bible nous dit, il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui ressuscite les morts, alléluia, et espérant contre toute espérance, il crut, alléluia, et il vit dans sa vie, eh bien la promesse de Dieu s'accomplir, alléluia, et Isaac est né, amen, alléluia. Et je prie afin que nous soyons de celles et ceux qui croient encore dans les promesses de Dieu et qui disent et qui relèvent ce défi, eh bien dans notre génération, pour dire: Seigneur, moi je crois, Seigneur, que ta parole, quand tu dis quelque chose, eh bien cela va arriver, cela s'accomplira, alléluia. Je crois dans tes promesses, amen, alléluia. Jaïrus, ça a été son cas. On lui annonce la mort de sa propre petite fille de 12 ans. Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. Il fallait y croire. Hein. Heureusement que Jésus est là pour susciter la foi, alléluia. Mais cette foi, elle naît dans cette relation, dans cette communion avec le Seigneur. J'ai été touché, il me semble, à jamais impacté par l'exemple de ma maman, qui a fait une psychose puerpérale à ma naissance. Elle avait des idées de meurtre à mon égard. On habitait en haut d'un HLM et elle voulait me jeter. Elle était torturée dans ses pensées. Les médicaments qui n'étaient pas dosés comme ils le sont à l'heure actuelle amplifiaient le désir de suicide. Et elle avait reçu Jésus pour son sauveur. Les médecins disaient à mon père: vous irez la voir maintenant au cabanon. C'est un langage imagé pour dire c'est l'hôpital psychiatrique à vie. Et on était dans cette situation-là. Notre pasteur, pour ceux qui le connaissent à l'époque, c'était Gérard Faux. Lorsqu'il a appris que je suis entré dans le ministère, des années plus tard, il a dit: mais il y a une sœur qui voulait mettre fin au jour de son enfant et maintenant il sert le Seigneur. Quand on était à Joseran pour la reconnaissance, j'ai vu un frère se précipiter, courir vers moi pour m'imposer les mains, pour prier pour moi. C'était Gérard Faux qui était là. J'ai dit: mais gloire à Dieu, alléluia. Mais le Seigneur a soutenu ma maman. Elle lisait quotidiennement le psaume 27, quand une armée se camperait contre moi, mais je n'aurais aucune crainte, etc. Et des années plus tard, 10 ans de maladie, c'est long, 10 ans, hein, maladie incurable, je vois ma mère, un visage changé, transformé, en disant: mais c'est fini maintenant, j'en ai assez, le Seigneur me guérit. Et je la vois encore dans la cuisine. Ne le faites pas, hein, s'il n'y a pas de conviction. Hein. Mais dire: Seigneur, je crois dans la guérison divine. Et petit à petit, avec un couteau, couper son médicament de Temesta, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Aujourd'hui, quand elle explique aux médecins ce qu'elle était et ce qu'elle est, ils ouvrent des yeux grands comme des soucoupes et ils se disent: mais comment c'est possible? C'est une maladie incurable, on n'en guérit jamais. Et surtout, on n'a plus d'enfants après. J'ai un frère et une sœur qui sont nés après moi, 10 ans et 14 ans après. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Seigneur, mais tu me connais de l'intérieur. Croyez pas qu'il n'y a pas eu des doutes, croyez pas qu'il y a eu des fatigues, il y a eu des paroles qui ont dépassé la pensée parce que la souffrance était là. Mais Dieu n'en a pas tenu rigueur. Il est celui qui nous aime. Un ami, le véritable ami, il aime en tout temps. Je donne ma vie pour mes amis. Mais cette relation, elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas se briser comme ça. Je termine. Et là, c'est sûr. Et puis, c'est un ami, le véritable ami également. C'est celui qui confie à son ami... Stéphane, non, assieds-toi. Voilà. Ouais, non. C'est celui qui confie à son ami ce qu'il a de plus cher. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, au verset 29, Jean-Baptiste va se nommer lui-même l'ami de l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, c'est-à-dire Jésus. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. et aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il est heureux parce que, voilà, lui, il a voulu préparer l'épouse, et l'époux est là. Alléluia. Il a réussi sa mission. Hein. Mais, lorsque je lis la parole de Dieu, je m'aperçois qu'il y a plusieurs amis de l'époux. L'apôtre Pierre, par exemple, dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 12, qui dira ceci, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Et je regarde ça comme un devoir, etc. On connaît aussi ce que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 10, dira également, au chapitre 2, verset 10 de 2 Timothée, il dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire et... » éternel. Et puis, dans les Philippiens, Paul parlera même de Timothée en disant qu'à son époque, chacun cherchait son propre intérêt, mais lui, eh bien, il a cherché les intérêts de Jésus-Christ. Et je voudrais dire, et peut-être que ce matin, là, alors qu'on n'est pas si nombreux que ça, peut-être des frères et des sœurs qui servent le Seigneur depuis des années. Dans l'église locale, ça ne se voit pas, il y a des choses qui se voient, là vous me voyez, il y a des frères qu'on voit un peu plus souvent, des sœurs, les musiciens, etc. Il y a le conseil d'administration, il y a les moniteurs de l'école du dimanche, il y a toutes sortes de choses. Et tout ça, ce sont les amis de l'époux. C'est-à-dire que eux, ils travaillent pour que lorsque le Seigneur va revenir, l'église, elle soit prête. Alléluia. Qu'on marche toujours dans la vérité, qu'on soit toujours attaché à la parole. On sait que le diable, c'est un séducteur. On sait qu'on est dans des temps de séduction. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Mais on sait aussi que le Seigneur nous a confié une œuvre. Mais afin que nous veillions les uns sur les autres, non pas que nous nous espionnons, non pas que nous cherchions à regarder qui c'est qui va pas bien, mais dans le sens de dire je veux être pour mon frère, pour ma sœur, un ami qui va veiller sur lui, comme lui-même va veiller sur moi, afin que nous puissions être prêts pour le retour de Jésus. Alléluia. Et je voudrais simplement nous poser cette question, et pardonnez-moi si elle est un petit peu... Elle nous pique un peu. Est-ce que nous aimons ce que Jésus aime? Ce que Jésus aime, c'est son Église. Tout à l'heure, on a parlé, je vois le roi de gloire, il revient sur les nuées. Il revient pourquoi? Il revient pour nous chercher. Et ce que le Seigneur aime par-dessus tout, mes frères et sœurs, c'est ce qu'il a fait de votre vie, c'est ce que vous êtes devenus, c'est son peuple. Alléluia. Et moi, à titre personnel, Seigneur, je veux dire, je veux être, Seigneur, l'ami de l'époux, afin que quand tu vas revenir... l'épouse, elle soit prête. Alléluia. Amen. Et qu'elle soit prête pour toi, Seigneur, comme Jean-Baptiste a pu le dire. Amen. Alléluia. Alors, termine en disant simplement ceci. Si le Seigneur t'a confié quelque chose, ça sera sûrement dans l'Église pour que tu puisses être l'ami de l'époux et que tu puisses veiller à la bonne santé de son peuple. Alléluia. Amen. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, en rendant grâce au Seigneur. Je vous ai donné beaucoup de références, beaucoup de passages, en nous amenant à ce niveau relationnel qu'il y a entre le Seigneur et nous, une relation d'amis. Alléluia. L'Éternel parlait avec Moïse, comme un homme parle avec son ami face à face. Alléluia. Et c'est dans cette relation qu'on veut s'établir. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur, quelques instants? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces bons moments, pour ta grâce, pour ta bonté. Pour la joie que nous avons, Seigneur, de nous retrouver ensemble pour te louer, pour te glorifier. Mais, Seigneur Jésus, voulons, Seigneur, grandir dans cette communion avec toi et comprendre tout le niveau d'intimité, de responsabilité, de franchise, de fidélité que revêt ce terme « Je vous ai appelé ami ». Seigneur, tu as même dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Seigneur, te bénissons, Seigneur, pour ce niveau d'intimité, pour cette grâce, pour l'honneur que nous avons d'être appelés des amis de Dieu. Et Seigneur, nous ne voulons pas faire de cela, Seigneur, un titre qui n'aurait aucun écho, aucun impact dans notre vie actuelle, mais au contraire, dire Seigneur, Jésus, je veux honorer cette amitié. Seigneur, je veux veiller sur ma relation avec toi. Et je voudrais peut-être m'adresser ce matin à quelqu'un qui a été défaillant, qui est peut-être rempli de culpabilité. Et si tu venais déposer ton fardeau auprès de celui qui est le véritable ami? Il n'est pas là pour te repousser, il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour t'enfoncer. C'est vrai que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais il est surtout là pour te restaurer, te réconforter, te rétablir, te donner un nouveau départ, comme pour Pierre. Alors ce matin, nous voulons dire, Seigneur, merci, Seigneur, alléluia. Et puis, Seigneur, je vais te faire confiance. Parce que, Seigneur, toi, ta parole, lorsque tu dis quelque chose, ça arrive. Je ne vais pas te faire, pardon, Seigneur, l'injure de ne pas croire dans tes promesses. Parce que tu es Dieu, tu te mets à mon niveau et tu me donnes des promesses pour que j'y croie et qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Avant qu'on termine, peut-être quelqu'un aurait-il besoin que l'on prie pour lui, pour elle, en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être rétabli, d'être renouvelé dans cette dimension relationnelle avec toi, Seigneur. Simple, de tous les jours. Alors, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez lever votre main en disant, voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu, ouais. Quelques mains qui se lèvent, voilà, oui, je vous ai vu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, on va prier ensemble, amen. Voilà, et je voudrais que ce soit l'Église également qui prie, amen. Seigneur, voulons te bénir et te louer. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour cet amour, cette grâce. Et Seigneur, je veux t'apporter mes frères et mes sœurs. Seigneur, mon Dieu, tu connais leur vie, Seigneur, mon Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux, Seigneur, c'est que ton amour nous attire. Seigneur, on n'est pas apeuré par toi. On n'est pas apeuré par toi. Mais Seigneur, mon Dieu, on est attiré, on est mis en confiance. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui viennent avec leur combat, peut-être avec des fardeaux. Seigneur, ils les déposent à tes pieds. Et Seigneur, ils sont restaurés, ils sont renouvelés. Et Seigneur, mon Dieu, je te prie afin que à partir de ce jour, et même profitant de ces temps, Seigneur, peut-être d'accalmie, de congé, je ne sais, mais Seigneur, qu'il y ait comme une relation nouvelle qui se rôtisse entre eux et toi. Seigneur, dans une intimité, dans, Seigneur, un cœur à cœur. Seigneur, Père Céleste, je te le demande, dans le nom précieux de Jésus, parce que tu n'es pas un Dieu de loin, tu es un Dieu de près. Alléluia. Tu es celui qui nous connaît intimement et qui veut veiller sur nous. Alléluia. Alors bénis mes frères et mes sœurs. Sois leur soutien, leur consolateur, leur confident. Alléluia. Celui qui les relève. Alléluia. Seigneur, tu l'es pour chacun d'entre nous. Et nous te rendons grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.